Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadin. Bonne écoute et bon limoud.
Alors je vais vous lire aujourd'hui un texte dans le Talmud, Menachot Daf, à la page 98, assez extraordinaire. Il a été enseigné que les badim, c'est-à-dire les bas qui tenaient l'arche sainte, qui était dans le sein des saints, les rollo ayunogim et parorette, est-ce que c'est possible qu'elle ne touchait pas le rideau qui était devant le sein des saints? Talmud Loma, Virou, il faudra les voir. Si on doit les voir, est-ce que c'est possible qu'elle faisait un trou dans la parorette et qu'elle sorte? Non, Talmud Loma, tu n'as pas les voir. Voir, ne pas voir. Tu ne dois pas les voir en dehors. Elle dit, comment c'est possible, voir, pas voir? Elle dit, des dorkim, veboltim, veparoret. Les deux bas poussaient le voile, vedomim, ils ressemblaient à deux seins de femme. Et Tosfot nous dit que c'est tellement essentiel, cette blita, cette façon que les barres de l'arche sainte poussaient de voile qui faisait penser au sein d'une femme, que c'était un miracle. Parce qu'il fait un calcul que les barres étaient très loin, qu'elles n'étaient pas assez grandes. Il y avait un miracle. C'est tellement essentiel que Dieu fait un miracle constant dans le sein des saints pour avoir l'illusion d'une féminité érotique au lieu le plus saint de la Torah. Alors, on doit se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment se fait-il qu'au lieu le plus kadosh, le plus saint, au sein des saints, là où la parole de Dieu apparaissait entre les deux chérubins, là où le Kohen Gadol, s'il avait la moindre mauvaise pensée, le jour de Kippour pouvait mourir, frapper, c'est comme être, c'est le lieu du paradis, c'est le lieu de l'éternité, c'est le lieu rédimé, absolument pur dans le monde. Conte d'Agmara nous dit, voilà, c'était deux bars qui pousser le voile, qui fait penser à deux seins de femme, quel rapport? Alors pour comprendre cela, il y a cinq clés fondamentales. Première clé, on va parler aujourd'hui de la tzniut, de la pudeur. Qu'est-ce que c'est que la pudeur? Pourquoi est-ce qu'une femme, mais aussi un homme, se doit d'être pudique? Alors, c'est très simple. Avant la faute de Adam et de Ève, Adam et Ève étaient tout nus. Il n'y avait pas de pudeur. Pourquoi? Si la pudeur est une des dimensions du spirituel, Adam et Chava, qui étaient le plus haut de l'humanité, avant la faute, auraient dû être avant tout pudiques. Non. Parce que la pudeur nous dit, le Messias Yesharim et le Rod Sadikim, que la pudeur, c'est la conscience d'un manque. C'est parce que l'homme a fauté et que son corps, par la faute, s'est dégradé, qu'il doit cacher son corps. Et ça, c'est fondamental. Ça veut dire que si quelqu'un... C'est très important, la pudeur. Alors, Rod Tzadikim, il dit que celui qui n'a pas... Il n'a jamais vu un homme intelligent qui n'était pas pudique, et il n'a jamais vu quelqu'un qui est pudique qui n'était pas intelligent. Il y a un rapport entre l'intelligence et la pudeur. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la pudeur, c'est la préscience d'une dimension verticale infinie en moi que j'ai perdue à cause de la faute. Et tant que je suis encore, j'ai l'espoir de retrouver cette dimension, je vis le manque de cette dimension comme un manque. Et donc j'ai honte. Il dit, Loïkarti Baishan, je ne me rappelle plus les mots exactement, Loïkir Baishan, Sheulochacham, Lochacham, Sheulo Baishan. Je ne connais pas quelqu'un qui a honte et qui n'est pas intelligent. Et quelqu'un qui est véritablement intelligent et qui n'a pas honte. Extraordinaire définition d'intelligence. C'est que quelqu'un qui se présenterait sans aucune pudeur, même intellectuel, qui parlerait comme s'il savait tout, qui ne lui manquait rien, il n'est pas intelligent. Parce que l'intelligence, c'est toujours l'exercice d'un savoir, faire l'éruption de concepts, qui dans leur texture même, pointent quelque chose d'encore de plus profond, que je ne peux pas encore atteindre à cause d'un manque. Et dès qu'une pensée est totalisante, Dès qu'elle dit si c'est ça, et pas autrement, elle tombe dans la platitude de la bêtise. C'est comme ça. Et c'est extraordinaire de voir ça. Ça veut dire que la première notion de la pudeur, c'est lié à un manque. À un manque d'être, pas un manque d'avoir. Un manque d'une dimension spirituelle qu'on aurait perdue, mais qui n'est pas définitivement perdue, où il y a la promesse de la retrouver. Et c'est pour ça qu'on est pudique, en espérant un jour cacher ce manque qui un jour nous reviendra. Mais si quelqu'un étale, s'étale sans pudeur, le nudiste ou d'autres, il s'accepte dans sa dimension animale, réduit à ce qu'il est, sans aucun espoir de retrouver la beauté infinie qu'il a perdue. Et ce qui est fantastique, c'est que la Torah ne nous demande pas la burqa, elle ne demande pas de cacher le visage, ni les mains. Comme s'il y avait deux éléments en nous qui étaient, oui, restés parfaits. Le visage comme miroir de l'âme. L'âme, même après la faute, n'est jamais atteinte. Isaac nous enseigne que l'âme s'éloigne ou se rapproche du corps, mais qu'elle n'est jamais salie, dégradée elle-même par la faute, parce qu'elle est au-delà de la faute. Et comme le visage, le regard, le visage, c'est le reflet de l'âme, il ne faut pas cacher le visage. Parce que le visage reflète ce qui est parfait en l'homme, ça veut dire son âme. Et les mains, c'est les bénédictions de Dieu, sa possibilité de faire, d'agir dans le monde qui est donné par Dieu. Ça aussi, c'est parfait, il ne faut pas le cacher. Mais tout le reste du corps, oui, il faut le cacher. On dit que Shaoul, qui était très beau, le roi Shaoul, il portait des longues manches jusqu'ici, il cachait, mais pas les mains et le visage. Donc ça, c'est la première notion même de la pudeur. Il faut comprendre d'où viennent ces notions de pudeur. C'est pas que le corps est mal en soi. C'est pas que le corps est vilain en soi, qu'il faut le cacher. C'est la faute, c'est le manque d'aptitude à être à un niveau spirituel originel, comme Dieu voulait que l'homme soit, qui produit un manque dans le corps, qui est vécu par la conscience de l'âme comme un manque, qui produit une honte, qui elle-même produit une pudeur. On se cache, on ne montre pas ce qui n'est pas véritablement moi. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est que le désir, même le désir érotique dans la Torah, n'est pas sale. Ou plutôt, il n'est sale pour celui qui le salit. Je vous donne deux histoires, une dans la Gemara et une autre qui est aussi une Gemara, qui dit qu'une fois, un élève se moquait un peu du Rav, en disant, mais c'est quoi ces histoires de tzitzit? Vous portez des tzitzit? Hein, vous portez des tzitzit? C'est quoi les tzitzit? Il y a écrit que les tzitzit sont là pour nous rappeler les mitzvot. Le bleu, en réalité. Le bleu, si on avait le trélet, ça nous rappelle la mer, qui nous rappelle le ciel, qui nous rappelle qui c'est Akavod. Et ce rave, ce talmid, cet élève un peu insolent, se moquait du rave en disant, bon, comment voulez-vous qu'un fil bleu me rappelle la divinité? Terelet a la même racine en hébreu que tachlit, le but. Quand vous avez un espace infini devant vous, comme le ciel, il est bleu. Le bleu renvoie à l'infini. Mais lui, il disait, mais c'est quoi ces histoires de signes? Et le rave lui dit, oui, mais si tu vois la dentelle féminine, est-ce que ça n'allume pas en toi le désir? Il dit, ouais, alors c'est ça le rachat. Il dit, tu es un mécréant. Parce qu'effectivement, tu es tellement loin du spirituel qu'un signe spirituel ne renvoie à rien de spirituel en toi. Mais si tu vois quelque chose qui réveille tes sens animaux, l'animalité en toi, alors oui, là, le signe, ah oui, une signifiance assez forte pour élever en toi des pensées. Ça veut dire qu'en réalité, où tu te situes, où tu te situes dans ton univers spirituel, dans ton univers mental, tu te situes dans le ciel ou dans le bas? Mais en soi, le bas n'est pas sale. Il est même sacro-saint. Il y a une autre Gemara incroyable qui est dans Yuma. La même Gemara que je dis aussi est dans Yuma d'ailleurs, à la page, la même page derrière. Dans la page 54B, Amar Resh Lakish. Resh Lakish dit, Béchaach et Ressou Nochim Kolen Goïm, les Romains, sont entrés dans le Echal. Imaginez cette scène terrible où les légions romaines rentrent dans le temple sacré de Jérusalem, où les Romains incirconcis, avec leur brutalité, sont rentrés dans le Saint des Saints. Ils ont vu Raouk Rouvim, ils ont vu les deux anges, enfin les deux Krouvim, les deux anges, ouais, qui, comme chérubins, on va dire, qui sont sur l'arche, il y avait le couvercle de l'arche sainte, avec dessus deux chérubins qui se regardaient, des fois ils tournaient le visage, quand le peuple juif faisait des fautes, ils se regardaient quand le peuple juif faisait des mitzvot, et la voix de Dieu apparaissait entre les deux visages. Ils ont vu ça, mais Ourim et Bazé. Ils ont dit, ils ont vu comme un acte d'amour entre les deux chérubins. Vers un mot, Israël, allez-nous, ces juifs, chez Birkatam, Racha, Klalatam, Klala, que leur bénédiction est bénédiction avec leur. Oskim, Bedvarim, Meilou, Bemiyadou, Zelou, s'occupent de ces choses-là sexuelles dans le temple du Saint des Saints, et tout de suite, ils ont déconsidéré les juifs. Regardez comme c'est extraordinaire. La gloire nous dit oui que c'est effectivement pour l'incirconcis, pour celui qui est enfui dans l'impureté. Alors oui, il y a deux mondes. Il y a le monde spirituel qui est beau et il y a le monde matériel qui est sale. Ils ne comprennent pas que le peuple juif, qui est le peuple saint, puisse au contraire utiliser la matérialité, utiliser l'instinct, utiliser le désir, utiliser l'union des corps comme événement de spiritualité elle-même. Et en réalité, ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que celui... Et on va expliquer pourquoi. Ça veut dire que, bien sûr, que le désir peut être sale. S'il est pornographique, s'il est juste un égoïsme du désir solitaire, s'il est juste l'utilisation de l'autre pour assouvir ses besoins animaux, là, c'est sale, c'est moche. Mais il est merveilleux quand il est l'occasion de l'union des âmes, des corps, de l'union des êtres. Quand il est le lieu où on a la conscience que c'est le miracle de la vie elle-même qui apparaît dans l'acte d'amour. Celui qui n'est pas capable de donner de l'amour dans l'acte d'amour, effectivement, il rend l'acte sale. Mais celui qui est capable de donner du sens, de l'amour, de l'avenir, de la rencontre, de la tendresse en rencontre, rencontrer l'autre dans l'acte d'amour, alors au contraire, l'amour est un acte spirituel extraordinaire. D'ailleurs, on dit dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch et dans la Gemara, que le Talmid Chacham, le savant juif, l'initié, il prend le jour le plus saint de la semaine, Shabbat, pour faire l'acte d'amour avec sa femme, pour être avec sa femme. Pourquoi? Parce que c'est pas juste parce que c'est un délice, c'est aussi parce que c'est un oneg. Mais c'est comme il y a le Shabbat, il faut honorer le Shabbat par toutes sortes de délices. C'est vrai. Mais c'est parce que c'est le Shabbat, c'est l'union du corps et de l'âme. Le Shabbat, on mange et en même temps on est uni à Dieu. Le Shabbat, c'est l'union de l'infini et du fini, de l'éternité et de l'instant. Eh bien, l'acte d'amour, quand il est fait selon la halakha, selon la Torah, c'est l'union d'éternité et de l'instant. C'est l'union du Olam Haba et du Olam Hazé. C'est l'union des âmes. Et ça, c'est fondamental. La troisième clé, en vérité, dans la deuxième clé, je le dis en ayant un peu peur de le dire, mais il faut le dire. On reconnaît, et ça ne dépend pas forcément d'un caractère, d'un exercice religieux, plus ou moins religieux. On reconnaît le tzaddik et le racha, le juste et le mécréant sur cette question-là. Sur cette question-là, c'est le choix. Quelqu'un qui, tout de suite, même s'il est religieux, voit dans le rapport d'amour à l'autre quelque chose de sale, c'est qu'il n'a pas fait son tikkun, c'est qu'il n'a pas fait la réparation de sa libido. Il n'a pas fait la réparation de sainteté qui est la base même de la vérité spirituelle. Il y a une Gemara extraordinaire dans Sanhedrin où on utilise des psukim, des versets, pour expliquer qui devait siéger au Sanhedrin. Sanhedrin, c'était le juge, le Beddin, le tribunal des plus grands initiés de la Torah. Et étrangement, la Gemara dans Sanhedrin ne prend que des exemples de Shir HaShirim, du cantique des critiques, et on parle là-bas de poitrine, on parle là-bas de nuque de femme, on parle d'amour, on parle de rose, on première vue, il n'y a pas plus sec qu'un tribunal. Vous avez un tribunal, il n'y a pas moins érotique qu'un tribunal. Comment ça se fait que la Gemara s'amuse à convoquer des psukim de Shir HaShirim, qui sont bien sûr des symboliques spirituels, mais qui passent par des images de tendresse, d'amour d'hommes et de femmes. Parce qu'on te dit, ne peut pas être juge en Israël celui qui n'a pas sanctifié son désir. Dans le monde goy, c'est pas du tout comme ça. Je veux pas, j'accuse personne, je dis des faits. Dans le monde goy, un juge, il peut faire très bien son travail comme juge en disant la loi du code civil. Il peut dire la loi en journée et la nuit, il peut être, avoir toutes les mœurs les plus délabrées. Du moment que c'est pas illégal, il peut faire ce qu'il veut. Il peut aller dans les pires des discothèques, les pires des dévoiements. Il fait ce qu'il veut, on s'en fiche complètement de sa vie privée. Du moment que c'est un bon juge dans le public. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Celui qui dit la parole de Dieu ne peut le dire que s'il a sanctifié sa libido, que s'il a sanctifié son désir. Sinon, il ne peut pas siéger au tribunal. S'il n'est pas saint, il ne peut pas sortir la loi sainte. Et encore une fois, c'est là où se joue véritablement. C'est là où se joue véritablement l'enjeu d'une sanctification réelle, pas imaginée, par la confrontation du désir et par la sanctification même du désir. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, c'est que, elle est presque plus compliquée à exposer, c'est que la séparation, la Torah le pose, entre le féminin et le masculin est essentielle. Sans séparation, on arrive à des amalgames, on arrive à du n'importe quoi. Mais c'est vrai que cette séparation, elle peut avoir des effets contraires. Elle peut exacerber le désir. Regardez, par exemple, chez les non-religieux, où il y a, dans les écoles, les garçons, les filles ensemble, tout le monde est ensemble, on pourrait croire qu'il y a moins de désir, moins d'yatserara, paradoxalement. Ce qui peut être vrai à un certain niveau très bas. C'est complètement faux au niveau d'une réalité sociologique. Vous prenez le monde de la Torah, et le monde de pas la Torah, je veux même pas les comparer, parce que ça serait presque obscène de les comparer, mais il n'y a pas photo. Le monde sans Torah, c'est un monde de trahison constante, de trahison entre les couples. C'est un monde de don giovannisme, on papillonne de l'un à l'autre, on arrive à une dépravation absolue, ça serait un autre sujet. C'est pas un hasard que le divertissement et la libération des mœurs vont de pair avec l'effondrement spirituel, c'est certain. Le monde à Torah, qui sait se tenir, qui a encore des espérances d'amour réel et de bâtir l'amour éternel entre deux êtres, et le respect de la non-commercialisation de l'image de la femme, comme il est fait dans la civilisation publicitaire occidentale, nous préserve, Baruch HaShem, de toutes les déviances humaines. Mais il n'empêche que nous devons faire attention que cette séparation nous empêche d'avoir une relation avec un être humain qui s'appelle la femme. Ça veut dire que, justement, bien sûr qu'il faut une séparation, surtout dans les tefilotes, mais aussi dans la vie, il faut une certaine séparation des sexes, pas totale, mais en faut. Mais il ne faut pas que cette séparation gomme la possibilité d'un rapport entre masculin et féminin. Moi, je me rappelle avoir parlé avec des très grandes rabbinites, mais avec la rabbinite Kenievski, avec d'autres grandes rabbinites. Justement, elles avaient l'élégance du visage. Leur présence, vous comprenez que les jeunes filles qui se baladent, je dis, malheureusement, les moins jeunes filles, et encore pire, les femmes mariées qui se baladent en exposant leur corps, c'est qu'elles instrumentalisent le désir de l'autre pour exister. Très souvent, les jeunes filles, même dans les milieux, dans les familles bien, font des bêtises, se dévêtissent parce qu'elles n'existent pas assez aux yeux de leur père. Et donc elles ont besoin d'exister. Et pour exister, la façon la plus simple, c'est d'attiser le désir de l'autre en s'exhibant en public. Tout le monde comprend la bassesse, mais on n'accuse personne. Mais en tous les cas, la voie sans issue de cette façon d'exister. Mais nous devons, nous, être capables de comprendre qu'on doit arriver à un niveau de Torah où le rapport féminin et masculin s'émancipe autour d'un rapport des âmes, d'êtres humains, de juifs. Et que si quelqu'un est dans un rapport où il ne peut absolument pas approcher une femme, c'est un problème. Alors c'est vrai que certains grands rabbinim le faisaient, peut-être parce qu'ils avaient l'honnêteté de savoir qu'ils avaient besoin de le faire, ou peut-être pour donner des exemples aux autres. Mais il est évident que Moshe Rabbeinu parlait aux femmes. Il est évident que les grands rabbinim, le rabbi Lubavitch, parlait aux femmes. Ça veut dire quoi, parler aux femmes? Pas parler aux femmes pour dire des bêtises, pour leur enseigner la Torah, pour les aider. Mais surtout, ils étaient capables d'élaborer un rapport entre le masculin et le féminin qui était au-delà de tous les désirs, parce qu'ils avaient en face d'eux une âme juive, et non pas simplement un corps. La séparation est nécessaire, mais elle doit nous préserver d'un fétichisme de la séparation qui empêcherait le rapport entre les âmes juives au nom d'une quelque religiosité de pudeur. Et les deux dernières clés sont les plus profondes et les plus importantes. Sont les plus fondamentales. Il y a un Zohar, on se dit quand même, bon d'accord, c'est pas sale, c'est beau, le rapport entre les êtres, les âmes, au-delà du désir, tout ça est bien. Mais pourquoi voulez-vous mettre au cœur même du Beit HaMikdash une vision de saint de femme? Si c'était pas écrit en Agma, j'oserais pas le dire. Pourquoi? Parce que justement, l'éros saint, la sainteté du désir, elle est au cœur même du travail de la Torah. Il y a un Zohar qui nous dit que s'il n'y avait pas, et je vous lis le Zohar, le livre des splendeurs, des Ilmale Yatserara, s'il n'y avait pas de Yatserara, le Zohar l'appelle pas Yatserara, oui, il y a une inclinaison qui peut être mauvaise. Ça veut dire, il y a le désir brut. Chedva, ça, chedvata, des Shmaïsel l'enlève. Il n'y aurait pas la passion pour l'étude de la Torah. C'est un texte extraordinaire. Ça veut dire que le Zohar nous dit que l'homme est une passerelle. L'homme, l'intellect, la compréhension, la vérité ne se nourrit pas que de logique. Elle se nourrit principalement de désir de vérité. Or, le désir est investi par le désir aussi érotique, par le désir. Ce désir érotique peut être sublimé, doit être sublimé, en désir d'intelligence. Ça veut dire en désir de comprendre, par un dépassement. Le désir érotique, c'est un dépassement, une sortie hors de soi vers l'autre. Eh bien, le désir intellectuel, c'est une sortie de ces petits concepts personnels vers l'intelligence elle-même qui est autre. Cet échapper hors de soi vers l'altérité du sens s'élabore principalement, à l'origine en tous les cas, par un désir de sortir vers l'autre. Et donc ça veut dire que l'impossibilité de sanctifier le désir va abîmer, pénaliser notre intelligence spirituelle elle-même. Que celui qui aura apaisé, qui se sera confronté avec sa libido, avec ses désirs, et qui les aura sanctifiés, sanctifiés c'est pas un mot abstrait, ça va leur donner une orientation, un sens. Que le désir prenne sens. Il prend sens dans l'élaboration d'une famille, il prend sens dans le fait de créer de la vie, il prend sens dans le rapport d'amour, il prend sens dans le rapport de fidélité. Quand le désir est sanctifié, il prend sens, il donne une capacité d'utiliser, de transcender, de projeter ce désir vers la quête de vérité. C'est-à-dire ne peut être véritablement Talmid Chacham que celui qui a utilisé son désir pour lui donner une puissance incomparable au-delà de la simple compréhension logique, une puissance incomparable du désir de vérité. C'est pour ça qu'au cœur même du lieu de la révélation divine, on nous montre une figure de voir, pas voir, étant toujours justement cet au-delà du logisme, de la logique, en étant dans ce sentiment du vrai qui apparaît, qui disparaît au même moment. On sait très bien que le désir est beaucoup plus fort quand la chose apparaît et disparaît au même moment que si elle s'étale platement sous une lumière crue. Eh bien, c'est pareil dans la spiritualité, dans l'intellectualité thoraïque. Le désir infini passe par un jeu de sens qui se joue déjà dans le désir de l'amour. Amélie Yavin. La cinquième clé et l'ultime clé, qui est peut-être la plus haute, c'est de comprendre qu'en vérité, tout est un. Que le vrai désir, le vrai amour, c'est l'amour de la Torah. C'est l'amour de Dieu. C'est une infinie félicité à vivre une vie dont la quête est la quête de vérité. C'est ça la source, c'est pas le contraire. Les psychanalystes, ils vous diront, ils ont toujours ce problème, que pourquoi y a-t-il une quête de vérité? Parce qu'il y a une quête de l'autre qui commence par la bestialité du désir. C'est le contraire qui est vrai. C'est parce qu'il y a dans l'homme, dans la structure de l'âme de l'homme, un désir de s'arracher à soi pour arriver à la lumière de Dieu. Ça veut dire, en mots simples, un désir de s'affranchir de la platitude de ses opinions pour peu à peu gravir les échelons de la vérité objective. Ça veut dire une sortie hors de soi. Que ses fondements métaphysiques se dégradent peu à peu jusqu'au bas-fond en vérité. Il peut tout désir, même physique, n'est que la déclinaison du désir spirituel. Et ça change tout quand on comprend ça. C'est-à-dire qu'un raham, quand il va avoir un désir physique, il va se dire, tiens, c'est parce que c'est lié à un désir plus puissant, plus profond, plus fin, qui peut-être n'a pas été assez travaillé, et donc qui est substitué par une facilité de désir un niveau plus bas. Ça ne veut pas dire que le désir plus bas ne peut pas être orienté vers des choses très bien. Mais il comprend, tout est uni chez lui, chez le sage d'Israël. Il comprend qu'en vérité, fondamentalement, le désir est un désir de vérité. Simplement, ce désir de vérité, quand il n'est pas assez assouvi, il peut se dégrader en désir d'une chose. Mais le désir d'une chose, s'il n'a pas de sens, n'est que l'expression d'une impuissance de donner du sens. Et donc, on te dit, la cinquième clé, c'est que, arrête de vivre comme un bipolaire. Arrête de vivre avec spiritualité dans ma tête, mon désir, le Yatsara, le Yatsara Tov, c'est que la Torah, la pensée, et le Yatsara, c'est que le corps. C'est pas comme ça. Ça, c'est chez l'égoïme, effectivement. Pratiquement chez tous. Je veux pas dire des noms, mais dans la religion occidentale, c'est banal comme ça. Dans les religions extrêmes orientales, où on pousse à l'ascétisme le plus total et à s'affranchir du désir, tout ça, bon après, bien sûr, on va vous dire, c'est plus compliqué que ça, c'est vrai. Mais en gros, c'est quand même comme ça. Nous, on te dit non. La Torah, elle te dit non. Elle te dit, il n'existe pas une réalité dans le monde qui n'est pas en vérité une déclinaison. Je veux pas dire une descente. Oui, c'est une descente. Une déclinaison, en tous les cas. Une déclinaison d'un fondement lumineux magnifique. Ça veut dire que toute irruption du désir, au lieu de diaboliser, de culpabiliser, de le frustrer, au contraire, vois-le comme une possibilité, comme un déclencheur d'une purification de ce désir vers un désir beaucoup plus haut. Et ce qui va te permettre, en retour dialectiquement, que ce désir beaucoup plus haut va te donner la force, après, de donner à ce désir plus bas un sens, et donc lui donner une légitimisation, et au contraire, une célébration de la vie, au cœur même de l'exercice des mitzvot et de l'étude de la Torah. Alevai aleinu, v'alevai al kol am Yisrael. Amen.
Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbanim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site Torah Box, www.torah-box.com, trois enseignements de judaïsme par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.